franceinter.fr.
France Inter, il est 8h30. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre.
Bonjour.
Et bonjour à tous. Le livre ne sera mis en vente que demain. Mais il pointe déjà en tête des meilleures ventes sur le site Amazon.
Et face à la demande,
face à la demande, Patricia, certains libraires le proposaient sur leur présentoir dès hier. C'est donc ce qui s'appelle un lancement réussi. Et son auteur s'en félicite dans le journal du dimanche.
Quel auteur ?
Je ne peux pas dire, confesse-t-il, que ce n'est pas une grande satisfaction. Cet auteur, vous l'avez reconnu, c'est Nicolas Sarkozy. Pas peu fier de voir l'intérêt provoqué par son texte « La France pour la vie ». Les bonnes feuilles ont paru cette semaine dans le Figaro. Ce soir, il sera l'invité de 7 à 8 sur TF1. Puis, dès la semaine prochaine, il commencera des déplacements un peu partout en France pour des séances de dédicaces. Et ce matin, dans le JDD, nous avons donc ses confidences. Pourquoi ce livre ? Et pourquoi tant de si étonnants mea culpa ? L'ancien chef de l'État récuse l'expression. Ce n'est pas un mea culpa, c'est beaucoup plus important que ça, oui. C'est un retour d'expérience. Et puis, à quoi bon faire un livre si vous ne dites pas des choses personnelles, ajoute-t-il, en précisant que les journalistes le voient bien plus fort qu'il ne l'est. Fendre l'armure, en somme, montrer qu'il est capable de reconnaître ses erreurs, tout en esquissant les bases d'un futur programme sur la fiscalité, l'immigration, le temps de travail. Mais, dit-il, ce n'est pas une déclaration de candidature, non. Je ne cherche pas à convaincre, je cherche à expliquer. Expliquer la complexité des sentiments et des événements. Assez nouveau dans son vocabulaire que ce type d'expression. Ce bouquin, il l'a commencé cet été et bouclé lors des fêtes de la fin d'année. Des livres, certains en font trois, franchement je les admire. C'est déjà tellement difficile d'en écrire un. Allusion même pas voilée aux trois ouvrages programmatiques qui doivent jalonner la campagne d'Alain Juppé. D'ailleurs, à plusieurs reprises, il évoque Juppé dans le sien, notamment en révélant que c'est lui, Nicolas Sarkozy, en tant que président de la défunte UMP, qui avait réglé les frais d'avocat d'Alain Juppé lors du procès des emplois fictifs. À l'heure de l'affaire Big Malion, le message est on ne plus clair, souligne le journal. Comprendre au jeu des boules puantes, tout le monde a des munitions. Et quand on lui parle des sondages, il rappelle l'épisode Chirac-Balladur, le favori battu par son meilleur ennemi. D'ailleurs, dans le jugement sévère que portent sur lui les Français, Nicolas Sarkozy voit une raison d'espérer. Et pour le montrer, il emploie une troublante métaphore. Vous savez, dit-il, dans un couple qui divorce, s'ils continuent à s'insulter, c'est au fond qu'ils s'aiment encore. C'est que la page n'est pas tournée. Et aujourd'hui, il veut donc croire que la page n'est pas tournée. C'est le titre à la une de l'hebdomadaire.
Et puis dans le même temps, à gauche, il en est certain qu'il espère écrire maintenant une nouvelle page, notamment avec des primaires.
Et dès maintenant, ça s'organise, nous explique le JDD. 500 militants associatifs et syndicaux ex du Front de Gauche et écolo lancent ce dimanche un comité et même une collecte de fonds afin d'organiser le vote. Et un premier débat aura même lieu le 3 février à la Bellevilloise à Paris en présence de ceux qui avaient signé l'appel à une primaire à gauche, notamment Thomas Piketty, Romain Goupil ou encore Daniel Cohn-Bendit, sachant que l'actuel ministre de l'économie pourrait se lancer lui aussi. Non pas dans la primaire, mais dans la course à la présidentielle. C'est en tout cas ce que croit savoir Marc Andervelde, qui dans Marianne nous explique que l'ancien chouchou de François Hollande attend le moment opportun pour faire part de ses intentions. Ancien chouchou, car aujourd'hui le vent aurait tourné et les intimes du président de la République parlent d'Emmanuel Macron en des termes assez peu élogieux. Il ne serait qu'une chimère, juste un acteur de cinéma, pseudo-intellectuel mais ultra-narcissique et incapable de porter un projet collectif, rien que ça. Et de fait, il aurait donc un projet très personnel, l'Élysée, dès 2017. Et pour ce faire, ses proches le poussent même à quitter au plus vite le gouvernement et à se déclarer d'ici 3 mois. En attendant, le jeune ministre cultive, nous dit-on, ses réseaux, chercheurs, entrepreneurs, essayistes, écrivains. Son bureau ne désemplit pas et il compte déjà le soutien d'un mécène en mesure de financer son éventuelle campagne. L'industriel Henri Hermant, 91 ans, soutien de longue date de ce qu'on appelle la deuxième gauche, reste le problème du parti, il n'est pas au PS et ne dispose dès lors d'aucun mariage territorial, mais la situation politique est tellement plastique qu'il peut parfaitement l'emporter sur un coup de poker, note le politologue Gaël Brustier, qui rappelle qu'en 2011, Montebourg, avec 20 mecs efficaces, a fait 17% à la dernière primaire. Alors, dit-il, avec 300 mecs efficaces dans toute la France, pour Macron, tout est possible. Du reste, dans Le Monde, vous lirez qu'au sommet de Davos, le ministre a multiplié les interviews sur les chaînes internationales et les rencontres avec les grands argentiers de la planète, chez qui il a une cote d'enfer, l'élite de la finance atteinte de macronite. S'amuse même Le Quotidien, qui évoque également ses nouveaux propos polémiques à propos des 35 heures, ses propos à propos des 35 heures. À ses yeux, la réforme du droit du travail va de facto y mettre fin. Mais à l'Élysée, tout comme au ministère du Travail, on rétorque en substance qu'il prend ses rêves pour la réalité. Pour l'heure, donc, pas question de tourner la page des 35 heures.
Tourner la page, c'est également ce que souhaitent pouvoir faire les familles des passagers disparus dans l'avion de la Malaysia Airlines il y a de cela bientôt 2 ans.
C'était dans la nuit du 7 au 8 mars 2014 et le Quinzomadaire Society nous propose une longue enquête, une très longue enquête sur ce qui apparaît comme le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation. Car on ne sait toujours pas ce qui est advenu du vol MH370 qui devait relier Kuala Lumpur et Pékin. Pourquoi l'avion a-t-il changé de vol sans prévenir et pourquoi les autorités n'ont-elles pas réagi quand elles s'en sont rendues compte? Pourquoi n'a-t-on retrouvé aucun corps? Et quel était le chargement que l'appareil convoyait en plus des passagers? On a dit qu'il s'agissait de mangoustan, un fruit exotique semblable au litchi. Mais ce n'était pas la saison. Il n'y a pas de mangoustan en mars. Y a-t-il eu une attaque terroriste, une panne, une erreur du pilote, un détournement de la Chine afin de récupérer des armes? Ou bien est-ce que les Américains ont abattu le Boeing comme un vulgaire missile ennemi? Cette dernière hypothèse, on l'a lu notamment sous la plume de l'écrivain Marc Duguin, lui aussi a mené l'enquête et pointé des zones d'ombre, entretenues selon lui tant par les autorités malaisiennes que par les services de renseignements étrangers. Alors, que nous cache-t-on, comme aiment le dire les complotistes? Alors, qui nous cache quoi? Série de questions sans réponse qui laissent aujourd'hui les familles des 239 passagers qui avaient embarqué sur le vol dans le désarroi le plus total. Hier, on a appris qu'un débris métallique d'avion avait été retrouvé au large de la Thaïlande. Voilà qui va sans doute relancer les spéculations.
Vous parliez de désarroi, bien c'est ce que ressentent les ex-ouvriers du site Goodyear d'Amiens, condamnés le 12 janvier dernier.
Désarroi, colère, amertume, tout compte fait, le terme écœurement est sans doute le plus adapté. 8 hommes condamnés à 15 mois de prison, dont 9 fermes, pour avoir participé à ce que la justice qualifie de séquestration du directeur et du DRH de l'usine. Ces anciens salariés témoignent dans l'Humanité dimanche. Le plus dur, dit l'un, ce n'est pas pour moi, mais pour ma femme, et puis pour mes enfants. Un autre, imagine ce que ça fait pour un gosse à l'école quand tu lui dis « ferme-la, ton père est en prison ». Tous disent qu'évidemment, ils ne méritaient pas un jugement si sévère, contrairement aux patrons qui ont fermé le site, tandis qu'eux n'ont fait que défendre leurs emplois, l'impression d'une grande injustice et la certitude qu'il s'agit d'une décision politique, une condamnation pour l'exemple et pour mettre une chape de plomb sur le monde ouvrier, museler toute contestation et l'hebdomadaire d'épingler le vrai bilan de la fermeture, plus d'un millier de licenciés, puis 12 décès, dont 3 suicides. La violence sociale, elle est là, explique le journal. Même point de vue pour Politis, qui revient sur les conditions de travail des salariés de Goodyear à Amiens, décadence infernale, surmenage, dépression. Et les dernières années, la fréquence des accidents qui bondit de 130%. Quant au jugement du 12 janvier de la prison pour séquestration, un historien souligne que c'est une première dans l'histoire sociale et à ses yeux, ce n'est rien d'autre qu'une criminalisation de l'action syndicale. Dans la presse, on notera aussi ce joli titre dans Le Parisien, « Les Français kiffent leur keuf ». Oui, c'est une enquête. 80% des personnes interrogées ont une bonne opinion des policiers. Et c'est un chiffre nettement en hausse par rapport à l'an dernier. Et puis 2 hommages dans le journal du dimanche. Hommage d'abord de Tahar Ben Jelloun à l'écrivain Edmond Charleroux. Hommage également de Bernard Pivot à l'écrivain Michel Tournier. Ceci est peut-être l'occasion de relire leurs pages, de relire des livres.
Allons-y. On continue ou on arrête? Parce que vous avez vu l'heure?
8h39.
Oui, on arrête?
Ben on y va.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.